Bonjour et bienvenue dans Stand Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Je m'appelle Briac et je suis accompagné de Scott Fitz.
Hello, bonjour à tous et bienvenue à encore un épisode croustillant et plein de trucs intéressants.
Le croustillant en général vient de toi, Scott. C'est toi qui nous amène de ce côté. Ah, ce petit côté inattendu. Quoi.
Ah oui, parlons de ça, première nouvelle croustillante. Donc, je suis intermittent du spectacle. Et mon premier salaire vient de tomber de Pôle emploi, 0 euros.
Ah, parce qu'il y a...
il y a eu le truc d'attente, de je ne sais pas quoi.
Une carence, peut-être, il y a un délai de carence. Ouais, il y a un délai de carence, peut-être.
Et moi, je me suis dit, tu vas voir, mois de mars, je ne fais pas un seul cachet. Je m'en fous, je veux voir le pognon arriver.
Non, il faut se battre pour les cachets. Même quand tu es intermittent, il faut continuer parce qu'il y a un volume de cachets à faire et plus tôt tu les as fait, mieux c'est quand même, hein.
Ah oui, mais c'est ça qui est bizarre là-dedans, c'est que tu te dis que si tu les fais pas, ils te donnent de l'argent, mais tu as intérêt à les faire pour pouvoir avoir peut-être de l'argent si un jour tu en as besoin. Donc c'est un peu, c'est la carotte devant et tu y cours après, mais tu la chopes jamais.
Si, tu vas l'avoir, après ça sera que du bonus, tu verras, c'est un statut qui est super. Tu as des vacances, tu as tout ce qu'il faut. Le statut intermittent, il n'est pas parfait, mais il est quand même assez incroyable et assez unique. Donc, le statut intermittent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le statut qui est prévu pour les artistes en France. Pour l'obtenir, il faut avoir un certain nombre de dates payées au cachet. C'est-à-dire que la personne qui vous emploie ne vous donne pas des petites pièces ou des
Oui, c'est
billets.
sûr.
Elle vous déclare, il y a un contrat. Elle-même déclare la date, elle la déclare au Pôle emploi. Elle paye ses impôts, vous payez vos impôts. Donc, sur le moment, ça vous embête un peu parce que vous avez moins d'argent qui rentre dans votre poche. Mais sur le long terme, c'est vraiment mieux d'avoir ça.
On attend, j'attends. J'attends, j'allais fêter ça avec une Périne qui a aussi réussir à avoir le statut. Mais bon, pour fêter, il faut... voilà quoi.
Attends, le statut, c'est le statut. Ouais, c'est pas l'argent, le statut.
Oui, c'est ça. On va fêter quelque chose, en tout cas.
Mais bon, c'est super. Mais félicitations, c'est bien. Vous voyez, c'est possible de le faire, même en province. Ouais. Et il faut pas... C'est pas que en montant sur scène qu'on peut constituer le statut. Vous pouvez le faire en faisant de la figuration, vous pouvez le faire en jouant. Donc, n'hésitez pas à multiplier vos sources, votre faisceau de revenus, votre faisceau de cachets pour, à la fin, hop, obtenir ce statut qui vraiment va vous sortir de situations merdiques, hein.
Ouais. En tout cas, une piste intéressante, c'est des gens qui organisent des soirées stand-up dans des bars et demandent à ce que le propriétaire du bar fasse un cachet plutôt que de filer un billet. Ils font un guzo, etc. Et si tu fais, ils peuvent faire 5, 6, je pense, s'ils ne sont pas professionnels du spectacle. Et ça peut vraiment aider. Déjà, tu fais des scènes, tu es MC, tu organises et tout. Et tu as un cachet. Donc ça, c'est à creuser.
Donc le guzo, c'est un autre dispositif qui est fait pour employer justement des intermittents. Ça concerne tous les emplois. Voilà. Quand ce n'est pas ton activité principale de diffuser ou de produire un spectacle, mais que tu veux quand même payer de la juste façon les gens, il y a ce dispositif, le guzo, qui permet d'avoir un contrat de travail, une déclaration des données sociales, une attestation d'emploi pour France Travail, un certificat d'emploi pour les congés spectacles. Et les démarches sont vraiment super simples.
Ouais.
Ça permet aussi, pro tips des fois, vous êtes à la fin, vous n'avez pas tous vos cachets, il y a toujours moyen un peu de guzoter.
C'est bien. Ouais, on te renvoie les uns les autres et tout, voilà. Bon. Échange, allez tous entendre. Échange de cachets. C'est bien. Allez.
Cette semaine, Scott,
oui.
On a regardé Donnell Rawling sur Netflix.
Toi, t'as regardé. Moi, j'ai pas eu le temps de regarder.
C'est pas vrai. Ça dure que 40 minutes.
Oui, mais là, entre le message que tu me dis, oui, il faut regarder, et le deuxième message que tu me fais, mais...
Ah, mais c'est, ça te dit, tu n'as pas une dispense. C'est pas bien que...
Vas-y, raconte-moi pourquoi c'était nul.
Bah, écoute, en ce moment, ça m'embête de faire des reviews ou de dire que des trucs qu'on n'apprécie pas.
Ouais.
Mais force est de constater que c'est pas... Je ne veux pas vous dire regardez un truc si moi, je n'ai pas trop aimé. Donnell Rawling, il fait partie d'un programme
Eric Chappelle, non?
Voilà, un programme Chappelle, c'est-à-dire que Chappelle a décidé de mettre quelques potes en avant via son programme sur Netflix, dont Donnell Rawlings. Il arrive dans ce contexte-là, il y a une certaine hype. Hein.
Mm-hmm. Bah,
déjà ça, il faisait partie du Chappelle Show, hein. Il était dans plein de skates du Chappelle Show. Donnell Rawlings, il a 55 ans. Il a, je regarde un peu combien de... Il n'a pas fait tant de... Il n'a pas fait tant de specials. Et il a sorti 3 de specials en, tu imagines, à 55 ans. C'est pas énorme.
Ouais. Oui.
Et là, c'est le seul qui passe sur Netflix. Et c'est direct un peu décevant. Franchement, il y a quelque chose. La rencontre ne se fait pas pour moi avec ces mecs-là. C'est comment dire? En fait, j'ai même du mal à comprendre comment il fréquente Chappelle, quoi.
Ouais.
Ouais, tellement que le niveau, il est pas ouf dans ce truc-là. Dolan Rolling, ça s'appelle New Day. Donc, le début, il est assez marrant. Il rentre en chantant la chanson de, je crois, c'est Nina Simone.
Ouais.
Feeling Good. Il chante. Je vois où ça on peut tendre vers Dave Chappelle, mais putain, la pomme, elle est tombée loin de l'arbre, quand même. Hein.
C'est barré, la pomme.
Ah ouais, la pomme, elle est... Elle s'enfuit. Elle s'enfuit totalement. Et c'est pas... Alors, j'ai noté un peu quelques trucs. Je vais te dire... Il y a des blagues que tu comprends pas parce que les références sont trop précises. C'est sur le truc trop américain. Bon, ben ça, je peux pas l'en vouloir. Il veut adresser un public, c'est pas nous. Il y a des enchaînements qui sont incompréhensibles avec les phases suivantes. Il enchaîne des trucs qui ont vraiment aucun rapport. Et c'est... Alors, est-ce que c'est le montage qui fait ça ou... Ou est-ce que vraiment à la base c'est enchaîné comme ça, mais vraiment il passe de deux choses. Il passe des émeutes à sa relation toxique.
Comme dit l'autre, c'est difficile de passer du coq à l'âne quand tu n'es pas zoophile confirmé.
Voilà.
Ou du coq à light. Ça, c'est un pote qui dit ça. Ouais, tu as passé du coq à light. C'est drôle.
C'est marrant. J'aime Vincent, enfin, tout ce qui est détournement d'expression, c'est toujours un peu drôle.
Ah oui, le coq à light, j'étais mort de rire. C'est Romain Simon Casse. Je lui fais un bisou.
Il hurle tout le temps. Le gars, là dans mon petit Donnell Rawlings, il parle très, très fort.
Ouais.
Où il est fort, c'est qu'il fait pas mal de mimes.
Ouais.
Mais des mimes très assumés. Alors, c'est pas des mimes comme tu imagines le mime Marceau, tu vois. Il fait pas genre, je me colle une vitre. Mais il fait beaucoup de mimes qui sont... Ça marche bien. Tout ce qui est très physique chez lui, ça marche pas mal, par contre.
Ouais. Ça, le travail dans l'espace, ouais, c'est assez... C'est très intéressant. J'ai eu des cours, quand j'étais en cours avec Blake Dean, il y avait un des profs qui avait fait justement clown et tout. Et le travail de l'espace est très drôle quand tu fais une scène et que tu ouvres un frigo pour prendre une bouteille de quelque chose et que tu fais le geste et ton geste est précis et que tu vas prendre la bouteille, tu fais ton sketch et quand tu reviens et tu rouvres le frigo, la poignée est au même endroit, l'étagère est à la même hauteur, etc. Ça fait un film. C'est vraiment un truc, c'est magique. Alors que des fois, tu mimes quand tu fais ton sketch, tu mimes un téléphone portable, ouais, machin, et tout, là, 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 et t'as fini ta blague, le téléphone, il s'évapore. Genre, parce qu'il n'existe pas, évidemment, t'es en train de faire semblant.
Et même là, comme tu me l'as montré, comme tu le tiens comme les anciens téléphones.
Ah oui, oui, moi, avec le petit doigt et le pouce en haut, tu vois, en mode inspecteur gadget. Et si tu le... Après, c'est vrai que juste voilà, quand tu mimes un téléphone, avant tu faisais le petit geste comme les surfeurs. Après, si tu essaies de tenir un téléphone comme tu tiens vraiment un smartphone, c'est bizarre, c'est un truc que tu tiens à rien. Mais j'aime bien le geste quand tu imites les gens qui parlent en haut-parleur et qui vont dans la rue avec le téléphone comme ça.
Tout le monde imite ce geste en ce moment. C'est un truc, j'avoue que c'est des observations qu'on a tous fait. C'est vrai que ces mecs qui hurlent au téléphone, là, c'est...
Oui, c'est ça. Pourquoi tu fais ça?
Et si vous voulez voir quelqu'un d'assez physique dans ce qu'il fait, même si on le retient pas directement, c'est Ricky Gervais.
Ouais.
Avec ces petites phases comme ça, où il tient un objet ou un téléphone ou quoi, sont toujours assez précises.
Oui, quand il branle un mec pour obtenir un chiot, mais c'est trop bien fait.
Je pensais à ça. Bizarrement, je pensais à ce truc-là.
C'est trop bien fait. Oui, parce que après, ça devient un peu méta, genre... Tu fais le truc. Là j'ai joué il n'y a pas longtemps. Et je parle de ma fille qui parle. Genre, j'apprends des trucs de Jones. Et l'insulte à la mode en troisième, c'est BDH. Donc une BDH, c'est une bandeuse d'hommes.
Waouh, tu vas apprendre un truc là.
BDH. Et donc c'est BDH full face. Full face, c'est les filles qui font toutes les étapes du maquillage.
Attends, mais ça veut dire quoi bandeuse d'hommes? Parce que là, je ne l'ai pas.
Donc c'est une fille qui essaie de plaire aux garçons. Et donc, j'ai dit, bon, ma blague, c'était bon. Limite, elle soulave, quoi. C'est déjà... Et donc, c'est une sorte d'insulte. C'est comme... Je ne sais pas si c'est comme traîner ou... Mais c'est une insulte à la... Je ne saurais même pas trop l'expliquer, mais voilà. Tu essaies de plaire aux garçons, tu es une BDH. Et si tu es un garçon qui essaie... BDH, bandeuse d'hommes. Mais déjà, bandeuse, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais bon. Et après, l'équipe...
Nous, dans le sud, alors, à Marseille, on est vraiment bandeur, bandeuse. C'est vraiment quand... Par exemple, si quelqu'un va te faire un compliment, je dis, c'est là, tu es un bandeur, arrête de lui faire des compliments, tu vois.
Ah ouais? Ah oui, mais
c'est... Ouais, non, mais c'est ça, c'est le truc du sud, c'est vraiment... Un bandeur, c'est quelqu'un qui te copie, qui t'admire trop et tout. Je fais, ça va, arrête de faire le bandeur. Il est pas ici, c'est exceptionnel.
C'est drôle, ça. Non, mais c'est peut-être ça. C'est peut-être...
Quand quelqu'un te copie ou quand quelqu'un te copie, tu fais, oh, bandeur, j'ai acheté le même pull que moi, sérieux?
Ah ouais, c'est drôle. Moi, je connaissais pas du tout.
Ouais, c'est obscur, c'est assez obscur, mais nous, on a toujours utilisé ça.
Ça, c'est très drôle. Il est donc l'équivalent masculin, c'est un bandeur de go. C'est un BDG, bandeur de go. Voilà.
Ouais.
Et quand je dis ça sur scène, en plus, j'avais la voix un peu cassée. Ma fille me dit, ouais, l'autre, c'est trop une BDH full face. Et là, je fais une petite grimace à la con. Et les gens ont rigolé. Il n'y avait pas de blague, il n'y avait rien. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont imaginé. Mais des fois, voilà, le petit côté physique où tu fais un geste, un truc, et qui est spontané surtout, ça peut gratter des rires là où, à la base...
Il n'y a rien de plus puissant. Il n'y a rien de plus puissant que ça. C'est pour ça que je dis toujours, quand il y a des act-out, vous multipliez le nombre et le volume de rires, parce que ça repose sur autre chose que blablabla et fait. C'est avec ça. Un act-out, il y a quelque chose de physique, quelque chose dans la voix, quelque chose dans l'attitude, dans la tension même entre les personnages qui fait que vous obtenez autre chose.
Ouais, ça c'est ultra puissant les acteurs. Franchement, c'est fascinant parce que ça donne une profondeur de scène, ce qui est très intéressant parce que et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est de penser à ce genre de truc parce que quand t'es en narrateur, t'es dans l'espace-temps avec les gens, tu les regardes dans les yeux, tu partages un moment avec eux. Dès que t'es en act-out, il y a le quatrième mur qui tombe et tu es propulsé dans l'espace-temps de la scène que tu joues. Et du coup, ça fait comme une deuxième couche de scène, alors que c'est quand même que toi et ton micro. Mais tu n'es plus dans la salle, les personnages se parlent, s'entendent parler, se disputent, se disent des trucs. Et toi, tu peux sortir de ça pour faire une remarque au public et dire... Et puis ça, vu ma belle-mère, c'est vraiment un trou du cul. Et là, t'as un rire parce que tu te mets du côté du public et le public, il est avec toi et toi et le public, vous rigolez de la scène qui est en train de se passer.
Pour moi, c'est toujours important. Absurde,
mais c'est beau.
C'est toujours important d'avoir l'action avant la réflexion. C'est pour ça que quand il y a des personnages, justement la belle-mère, des choses comme ça, si c'est joué, si tu as tout montré, qu'après tu le commentes, je trouve que c'est un procédé scénaristique qui marche très très bien. Quand c'est le contraire, quand tu annonces ça, ma belle-mère, elle est si, et qu'après tu le montres, je trouve que c'est toujours un peu déceptif.
Oui, c'est ça. Oui, parce que tu comptes, c'est un peu comme il y a un gars qui a un compte TikTok comme ça, c'est comment il pense qu'on va réagir. Et lui, il est trop drôle parce qu'il réagit à plein de gens, et dont des stand-uppers. Et il y a une fille qui dit « Ouais, j'achète mes vêtements chez H&M. » Et lui, « Non, ouais, c'est vrai, H&M, oh. » On s'en fout. Mais quand on imagine que si on parle de ma belle-mère, etc., on imagine et on se fait plaisir dans notre tête à penser que le public va être mort de rire, va trouver ça super spirituel, etc. Mais c'est juste, des fois, c'est juste méchant. Et après, quand tu fais le act-out, tu te montres toi sous une lumière qui, des fois, n'est pas à ton avantage en tant qu'artiste.
D'où l'intérêt d'avoir des act-out avec des personnages. Hein. C'est pas toi qui portes ta blague, c'est vraiment... Ça permet aux gens de décaler la pensée. Et même un truc méchant que tu aimerais dire, tu fais le dire par un personnage, ça passe mieux.
Ça aussi, c'est merveilleux. Ça c'est vraiment un truc... C'est bon, le vieux débat. Le débat. Muriel Robin Bigard avec la blague de la déchirure bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, Bigard a fait une blague. Je ne sais pas si c'est une blague, je ne pense pas que ce soit une blague de viol, mais bon, ça a été interprété comme une blague de viol chez Hanouna. Et on lui dit, ouais, c'est une blague de viol, etc., apologie du viol. Et lui, il dit, non, mais le sketch de Muriel Robin, quand elle dit qu'elle sort avec un noir, et sa mère lui dit, mais il est noir, noir ou noir, comment? Il dit, ça, c'est une apologie du racisme. Et Muriel Robin qui dit, non, 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 ça, c'était pas moi, c'était un personnage. Et ça, c'est très drôle, comment on se dédouane ou on
Mais c'est
essaye, des
nécessaire.
fois.
Non, non, mais c'est
Allez.
nécessaire. Il y a plusieurs choses. Moi, je crois que ce qui est dit sur scène, ça devrait jamais être pouvoir être utilisé contre toi au tribunal, déjà.
Oui, ça c'est
Et
vrai.
il y a vraiment des choses où on a des cas où les gens récupèrent un truc sur scène, puis ils disent, ah, regardez, il a dit ça. Non, 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 la scène, c'est sacré. C'est un espace de liberté. On ne devrait pas pouvoir t'attaquer sur ça. C'est sur ton œuvre. D'ailleurs, là, j'ai vu une vidéo super intéressante. C'est assez récent, c'était le 2 mars, c'est Dieudonné qui se produit dans une petite ville. En gros, il y a les policiers qui viennent pour l'arrêter. Pour arrêter le spectacle, son spectacle, c'est genre Dieudonné sous bracelet électronique, c'est ça son spectacle. Il dit OK, mais vous voulez m'empêcher de faire un spectacle? Oui, mais moi là, je ne vais pas faire un spectacle, je vais parler. Mais ce n'est pas mon spectacle. Parce que mon spectacle, personne n'a jamais vu, je suis en rodage donc. Techniquement, c'est pas mon spectacle. Tu vois, il veut jouer sur cette ambiguïté pour quand même pouvoir faire son truc.
Ah oui, parce que je l'ai vu la vidéo, et ce qui est bien dans ce qu'il fait, c'est de. Et c'est un peu un truc à la Borat presque. C'est de pousser la police à dire et à montrer ce qu'ils sont vraiment en train de faire. C'est en train de boycotter lui. Il faut pas que lui, il parle. Mais la loi ne leur permet pas de faire ça, donc tu peux pas l'interdire lui de parler. Mais tu peux lui mettre des bâtons dans les roues pour qu'il fasse pas son spectacle, etc., etc. Mais c'est lui que tu veux cancel. C'est pas le spectacle, il n'y a pas de problème parce que personne ne connaît le spectacle. Et donc, en provoquant les policiers comme ça, en disant « Non, non, mais monsieur, je vais pas faire mon spectacle, ne vous inquiétez pas. Vous avez interdit, ne vous inquiétez pas. Je ne dirai pas un seul mot de ce spectacle, mais pas un seul mot, ne vous inquiétez pas. Bon, laissez-moi aller parler aux gens. » Et là, il ne laisse pas.
Et là, il déroule des blagues. Hein. Là, il déroule des sales blagues. Hein. Il fait des blagues sur les jeunes humoristes qui disent qu'ils veulent. Voilà, qu'ils aiment bien et tout. Voilà, en tout cas, c'est marrant que Dieudonné soit encore dans l'actualité des années après. Et toujours pour à peu près les mêmes choses. C'est ça qui est fou. Hein.
Bon, après, j'ai pas trop suivi le truc. Il a demandé, il a présenté ses
C'est pas
excuses.
notre
Après,
problème.
ça revient, machin.
Nous, on est là quand il y a des blagues. Là, c'est vraiment parce que c'est un événement culturel et qu'on voit qu'il y a une opposition entre les forces établies et l'artiste, peu importe si c'est Dieudonné ou quoi, on voit qu'il y a une vraie discussion qui est en train de se passer. Et donc, c'est plutôt une phase intéressante de l'art quand ça se passe comme ça.
Ah oui, moi, ce qui m'intéresse justement dans ce genre de truc, c'est la liberté d'expression et ou l'absence de liberté d'expression. Et le truc, ça revient à tu ne peux pas dire ça ou tu ne peux pas dire ça. Si tu mets l'accent sur le tu ne peux pas dire ça, donc d'autres gens peuvent le dire, mais pas toi, ou tu ne peux pas dire ça. Tu peux dire autre chose, mais pas ça. Et ça,
Non.
et souvent, c'est dans ces deux trucs-là. Soit tu n'as pas de légitimité, soit, voilà, comme ta gueule. Après, bon, tu parles, tu fais tes blagues, et des fois, j'en ai collègues qui se font traiter de misogyne, etc. Ouais, c'est misogyne ce que tu fais et tout. Et puis, je dis, t'inquiète, j'en ai une encore pire, je ferai la semaine prochaine. Mais tu as la liberté de faire des blagues que tu veux, que ce soit misogyne, raciste, homophobe, tout ce que tu veux. Et après, ben, les autres ont le droit de ne pas te programmer. Et de voilà quoi.
Ouais, non, ça
Donc
c'est vrai que ça, mais c'est pour ça, connaissez vos droits si vous allez dans ce sens-là, dans les trucs un peu extrêmes. Apprenez vos droits, connaissez vos droits, parce qu'il va falloir un moment bah, sûrement répondre de ce que vous faites. Et c'est mieux de vraiment savoir dans quel cadre vous agissez. De la
parce que
même
tu parles.
façon, si demain vous organisez un spectacle dans un bar, vous jouez, d'un coup, il y a. Je sais même pourquoi, il y a l'URSSAF, l'inspection du travail, qui arrive, qui dit bah, voilà, qui c'est qui a organisé ça, donnez-moi les fiches de paie et tout. Faudra pas faire la pleureuse, hein. C'est illégal ce qu'on fait, on le sait. Les comedy clubs, c'est totalement illégal. Il y a une comment dire, certaines laisser-aller, certaines latitudes qu'on nous laisse pour les faire. Mais le système actuel, la plupart des comedy clubs, 99,80%, ne devrait pas exister.
Ben oui. Mais et les théâtres, je ne sais pas qui m'a dit ça, mais c'est John Lecrain qui m'a dit ça. Les théâtres commencent un peu à faire la gueule au stand-up parce que finalement, tu es en train de faire de la compétition au théâtre. Mais bon, ils ont qu'à faire du stand-up s'ils veulent du stand-up. Mais
c'est
compliqué. Mais c'est une offre culturelle qui n'a pas de. Tu n'as pas de charge quand tu fais du stand-up. Tu profites d'un bar, tu fais un truc, machin, et tu peux gagner de l'argent avec. Bon, il y a tout un.
Ah, mais il y a un vrai débat à savoir. Moi, j'étais vraiment contre pendant longtemps que ce soit gratuit, je vois, les scènes à Marseille. Puis qu'on a ouvert la boîte de Pandore, c'est parti. Hein. Mais ce qu'ils croient avoir gagné là, ils l'ont perdu sur les prochaines années. Hein.
Ah oui, c'est ça. C'est ça.
Mais c'est chaque
tout le monde vers le bas, quoi. Ouais.
Alors, est-ce qu'on en revient à donner le rolling ou je pousse mon premier coup de gueule de la journée?
Pousse ton premier coup de gueule de la journée.
Ah, franchement, les impros sur Instagram. Tu t'appelles comment, tu es venu avec ta copine, tu es venu avec ton copain, mais c'est nul. C'est nul dans des gros comedy clubs, en plus des comedy clubs qui ont pignon sur rue, des trucs, mais arrêtez de diffuser ça, c'est un scandale, c'est pas bien. C'est bon, il y a... Bon, un mec, il fait à peu près drôle, il y en a 50 qui c'est de la merde. Elles sont pas drôles, vos impros, c'est pas drôle, le dispositif, il est usé. Ça part toujours dans le même sens, c'est que de la reformulation. C'est bon. Passez à autre chose, les gars. Passez à autre chose. Vous faites des impros cadrés, je sais pas, mais là, c'est un cauchemar. Et que le Comedy Club s'associe pour diffuser ça. Mais c'est mais on a atteint le. Franchement, ça me saoule de faire le même art que ces gens-là. Quoi. Là, c'est vraiment être associé à cette médiocrité, ça me gonfle.
Ouais, j'ai vu une vidéo de Marc Maron qui fait pareil au début d'un spectacle. Ouais, parce que maintenant, il faut faire sur TikTok, il faut faire des interactions. Tu t'appelles comment l'autre? Antoine, ah, c'est un prénom de merde. Bon, ça, c'est fait. Toi, là, t'as une chemise. Ta chemise, c'est de la merde. OK. Toi, ouais, t'es gros. OK, bon, c'est bon. On peut commencer le spectacle. On partage. C'est parti. Et après, c'est compliqué. Je pense que faire les interactions pour créer la relation avec le public, c'est assez cool. Mais déjà, les gens ont peur de venir au premier rang. Des fois, ils sont là, ils sont pas à l'aise. Et puis...
Ça, on n'y reviendra pas. Ça, c'est fait. Il y a Redouane est passé par là. Il a pété le premier rang. Mais après, j'ai vraiment... Tu vois, là, je ressens vraiment une période, comme Louis C.K. l'a dit, où les gens font du stand-up pour Instagram et c'est en train de tirer tout vers le bas. Le niveau stand-up vraiment n'augmente pas. Je le dis sincèrement, le niveau de stand-up n'augmente pas en France. Et c'est un truc qu'on croyait automatique. C'est un peu comme la conquête spatiale. Conquête spatiale, on pensait qu'on aurait de plus en plus de technologies pour aller dans l'espace. On est allé sur la Lune, on fait « Allez, on abandonne, les gars !» Et maintenant, c'est plus y aller. Ouais. Et c'est pas aller dans le sens où d'un coup, on a eu une meilleure fusée ou quoi. C'est que très récemment qu'on est reparti sur de la technologie, sur la conquête spatiale. Et bien là, c'est la même chose dans stand-up. J'ai l'impression qu'on est en train de tirer vers le bas le stand-up avec ces choses très médiocres. Et des gens qui ne font des sketchs que pour Insta, que pour les réseaux. Et je suis très dubitatif. Voilà, je suis très dubitatif. Ce que je vois en ce moment, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un bon sketch. Franchement. Un autre truc où je me dis, waouh, c'est original, hein, ça me porte et tout. Et je comprends parce que pour faire un bon sketch, il faut longtemps. Et quand tu l'as, tu ne veux pas forcément le diffuser sur les réseaux. Ouais. Donc je comprends la difficulté de livrer du matériel régulièrement pour augmenter ses réseaux sociaux et à la fois... Ne pas trop dévoiler son spectacle.
Ouais, je sais pas. Moi, j'ai la sensation que ta meilleure blague, tu l'écriras demain. C'est cette philosophie de « Ah, je ne vais pas partager, de peur qu'on me pique. » Mais je...
C'est pas de peur qu'on te pique, c'est juste que tu as peur de cramer ta bonne blague, tu vois, l'effet de surprise, des fois. Ouais, il faut tellement de temps à régler un sketch. Ouais. C'est embêtant. Il me faut, personnellement, il me faut 2 mois pour régler 5-6 minutes. Donc, ça m'embête des fois de le livrer direct, de facto, au réseau.
Après, il y a un truc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du stand-up pendant 6 mois et qui viennent juste tester, voir si ça leur plaît. Mais ils sont beaucoup. Et du coup, bah, parce que je pense qu'il y a comme un voyage quand tu commences ce métier. Il y a un voyage vers toi-même, vers ta vulnérabilité, vers ton honnêteté, tout ça. Et bien sûr qu'au début, tu vas être un peu plus à la surface. Tu vas parler à Tinder, la photo, c'est pas contractuel. Ok. Ah oui, machin. Bon, ok. Il y a des trucs qu'on a déjà entendus 400 000
Bon,
fois.
on l'a tous fait, on a tous essayé, on a
Oui, c'est
tous
ça.
fait.
Mais
Il n'y a pas de problème. Ça, c'est le chemin obligatoire.
c'est ça. Mais après, il faut. C'est ça, quand tu vois quelqu'un qui a déjà passé cette phase de juste voir si ça lui plaît ou d'être sur scène, etc., et commencer à te donner l'illusion que tu le connais à la fin d'un sketch. Ça, c'est moi, j'aime bien ça. J'aime bien croire que, waouh, cette personne, je connais quelque chose de cette personne. Alors que des fois, je vois certaines soirées, je vois, et on n'a appris rien sur qui que ce soit. C'est genre, ah, regarde mon texte. Genre, ne me regarde pas moi, regarde mon texte. Applaudis-moi, rigole, mais je me risque pas, je risque juste mon texte. Et ça, bon, c'est un voyage, quoi. C'est un voyage, et quand tu vois Louis C.K., comme dit Orelsan, je pense que c'est Orelsan qui dit, les choses que je veux cacher à ma mère, ce sont les mêmes choses qui remplissent des stades. Et là, tu dis, ah
Ah
ouais, c'est ça. Et bon, c'est un voyage, quoi. Donc, il faut laisser le
ouais.
temps.
Là, c'est pas, mais pas obligé de diffuser sur le réseau. Là, vos trucs, là,
Oui, voilà, c'est votre voyage pour vous-même.
indigent, indigent, mais c'est embêtant. Moi, je trouve ça bizarre que les Comedy Club donnent la voix à ça, mais c'est comme ça. Deuxième truc de cette parenthèse. Ok. Instagram. Quand vous dites.
Ok, respire.
Non, 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 mais parce que c'est. Non, mais ça va être très, très simple. Ça va être super, super simple. Quand vous faites une vidéo sur Instagram, que vous la diffusez, donc vous placez en tant qu'artiste. Vous dites, j'ai des blagues, je diffuse. C'est pas parce que vous ne les faites pas sur scène que vous pouvez prendre des blagues aux autres. Si vous avez entendu une super blague sur scène et que vous la faites dans une vidéo Instagram, c'est que vous voulez quand même la blague.
Mais oui.
Ok. Maintenant. Je vais faire très simple parce que ça, comme ça, tout le monde comprendra. La prochaine personne qui fait ça sur les artistes que je gère ou les trucs que j'écris, on va arrêter de discuter, d'envoyer les messages cool, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux pas. Je vais prendre la vidéo de la personne, je vais prendre la vidéo antérieure et je vais les mettre face à face comme copie comique. Et je
Ah ouais.
diffuserai sur tous les réseaux que j'ai.
Ah
Parce que
oui.
ça devient un phénomène vraiment embêtant que les gens prennent tes blagues et tout pour les mettre sur Insta, pour faire des facecams. Et ils sont stand-uppers, mais ils font des facecams avec tes blagues. C'est pas possible, on
Oui,
peut
tu
pas.
m'enverras en privé pour que je vois ça,
Non,
parce
non,
que
mais c'est juste, il faut que ça s'arrête, parce que c'est pas un bien commun, la blague. C'est pas un bien commun. Moi, ça me dérange pas si Toto, il a 13 ans, il veut se faire des blagues, il veut reprendre. Ouais, ça m'est arrivé, on m'a envoyé. Des mecs d'Afrique et tout qui m'ont dit est-ce que je peux refaire tes sketchs? Alors, je fais vas-y, régale-toi, tu vois, dans le cadre, je sais pas, dans le cadre d'un centre aéré et tout, les mecs ils voulaient faire ça. Avec les paperboards, faites-le. Et c'était trop marrant, j'ai vu des vidéos trop marrantes, tous les mecs qui me refont, c'est drôle. Mais dans le cadre, nous, où on est professionnels, censés tous être dans le milieu du stand-up, si vous prenez les blagues pour en faire autre chose, ça marche pas. Si vous prenez les blagues pour en faire des courts-métrages, ça va pas. Si vous faites comme Michael Youn, que vous prenez des bouts de sketch, des bouts de film, que vous faites un film autre, ça reste du plagiat, quoi.
Bah oui. Ah ouais.
Donc, c'est dit, je m'embête même plus, je préviens non même plus et tout, je ferai la vidéo, j'ai Final Cut, je sais monter. Copy comique, il a fait le plus dur, il a défini le format. J'ai qu'à copier le format et faire la même chose.
C'est bien. Donc, oui.
Ou alors, il y a une technique encore plus incroyable. Est-ce que je te donne la technique dite
Ouh, vas-y.
de
Dites de
Youn?
Briac.
Non, moi, c'est pas moi, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Younes. Ah, mec, c'est Younes, il a inventé cette technique. Face à quelqu'un qui avait pris une blague et qui l'a joué, qui a fait ça, il a prévenu, comme moi, comme tout le monde, s'il te plaît, ne fais pas ça. Mais non, mais oui, mais non, et ça discute en face. Au lieu d'avoir l'humilité de dire, mais oui, d'abord, je la fais plus, c'est une erreur. Il fait OK. Il a appris les blagues de l'autre. Il les a joués sur scène, il les a diffusés sur Instagram.
Ah ouais,
À un
ça c'est classe.
moment. Ah ouais, mais à un moment surtout, voilà,
Et là, si tu prends les blagues de l'autre, tu les fais sur scène et tu te rends compte qu'elles n'étaient pas les blagues de l'autre, et tu vas te retrouver
Ah, tu crois qu'il y a
avec le
plusieurs
vrai auteur
organisations
qui va venir te casser la gueule.
ouais.
Ah ouais, putain. Ouf. Après, il faut. Waouh. Il faut. Mais j'en vois. Hein, et après, moi, ce qui me surprend, c'est que je regarde très peu de stand-up français. Et du coup, j'ai pas les refs. Donc, quand on me dit, ah, regarde, ça, c'est pas de lui, ça, c'est pas de lui, ça, c'est d'un tel, c'est d'un tel, c'est d'un tel. J'étais, waouh, j'ai un pote qui a chouré une blague de qui déjà? Je sais pas si c'était Bigard ou de qui c'était, mais de les années 90, quoi. Et il y a un autre qui dit, cette blague, c'est de machin. Et il était, ouais, je sais, mais je la trouvais bien.
Bon, mais
Oui,
exactement, mais tu vois,
mais moi, je la trouvais même pas si ouf. Donc, ouais, il dit ça, ok. J'ai même pas dit, putain, c'est un trait de génie. Comment t'as fait pour écrire ça? Et j'ai découvert qu'il avait repris des chansons et des trucs. Mais moi, je les connaissais pas. Pour moi, ravi de la vie qu'il fasse ces trucs, mais waouh!
Ouais,
Il y a
non,
des gens qui
reprenez
font
Bigard,
ça.
reprenez qui vous voulez, mais reprenez pas mes trucs ou ceux
Oui,
écrits par mon
voilà.
équipe parce que ça m'embête. Voilà, ça m'embête un peu et voilà, je pense qu'on peut tous être fair play sur ça, on peut tous même faire des erreurs, il n'y a pas de problème. C'est à la portée de tout le monde, mais soyons fair play sur ça parce que si c'est un milieu qui est déjà pas évident, on n'est pas, c'est pas comme si on était choyé, s'il y avait une solidarité énorme. Donc au moins entre nous, soyons un peu solidaires
Oui, c'est sûr.
ce à quoi on tient, c'est-à-dire notre matériel et notre savoir-faire.
Ben oui, même mais quand tu sais pas faire et que t'as pas de matériel, achète le guide ultime du stand-up et tu trouveras la façon de faire des choses originales qui n'appartiennent qu'à toi.
La meilleure pub qu'on puisse faire, le guide ultime du
Ben
stand-up.
oui, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Putain. Surtout que tu peux, et ce qu'il faut que les gens comprennent, et c'est un message que j'ai. Quand j'ai réussi à le faire passer à mes élèves, c'est. Tu suffis, toi, ce que tu vis, ta traversée de l'existence, ce que tu ressens. C'est ça ta matière première. C'est ça qui t'intéresse. C'est ça que tu veux. C'est avec ça que tu vas faire tes blagues. Tu vas faire rire les gens. Mais il y a comme si, voilà, moi, je suis pas suffisant. Il faut que j'aille chourer les blagues de Briac, quoi. Non, parce que j'ai une vie, un truc riche, quoi.
Non, mais il y a
Et.
même un autre moyen, Scott. Tu aimes mes blagues. Vraiment, elles te plaisent. Tu me trouves. Tu as dit, putain, Briac, quand il fait des. Ou même ce que j'entends sur Stand Up France, ça me plaît quand il parle et tout. Tu m'envoies un message sur Instagram. Tu me dis, voilà, j'ai telle problématique et tout. Si c'est une problématique technique, on peut en parler. Si c'est un truc, tu as une pro derrière et tout, tu dis, ah, mais moi, je voudrais que tu interviennes sur un spectacle à tel niveau, ça peut se discuter. Ça arrivait plein de fois. Je collabore avec plein de gens qui me connaissent, que ce soit par mon stand-up ou par Stand Up France, ils viennent vers moi et quand le mariage se fait, c'est cool. Des fois, ça ne se fait pas parce que pour plein de raisons, mais à chaque fois, on discute, on en tire tous les deux des bénéfices parce que c'est toujours bien de discuter avec ses pairs. Et voilà, si tu aimes vraiment ce que je fais, si tu te dis, putain, j'ai vu le spectacle de Fécondé, j'aimerais faire un truc événementiel comme ça, est-ce que tu peux le monter? Je fais, ouais, voyons ce qu'on peut faire dans notre économie.
Oui.
Mais c'est une discussion et pareil, je vous souhaite à un moment que vous aussi, on voit sur scène, c'est la personne que je veux pour écrire avec moi. Et ça vous fera une autre corde à votre arc.
Moi, j'ai vu une comédienne que j'adore. C'est une nana écossaise. Et ce qu'elle fait, c'est des vidéos Insta où elle joue le guide touristique qui se fait chier et qui fait visiter des attractions en Écosse. Et je trouve ça tellement drôle. J'ai posé en commentaire, je peux faire pareil en français? Elle me dit non. Mais bon, c'est pas, c'est le format. C'est le format. Je dis, bon, c'est drôle parce que les gens ne vont pas profiter de ça. C'est dans une autre langue. Elle ne
Je
fait pas
sais,
pour rire.
mais c'est tentant, c'est très tentant.
Mais après, bon, il faut le faire. C'est pas juste vouloir le faire. Bon, après, le format, genre le paperboard, bah, bien sûr, tu achètes un paperboard, tu fais ton truc.
N'y a
Après,
pas de
allez.
problème.
Voilà, le média, tu peux copier, le format, tu peux copier, mais le contenu, non.
Ouais, c'est. Bon, écoute, c'était la petite parenthèse. On peut revenir à notre ami Donnell Rowling qui vraiment nous a pas. Moi, ça m'a pas éclaté. Le spectacle fait que 40 minutes.
C'est une petite
40.
déception.
Ouais, c'est. Ouais, ben, à moins, voilà, il a la décence
Oui,
de durer
voilà.
que 40 minutes.
C'est ça.
C'est un peu comme le film Yannick. Tu l'as vu ce film?
Ah, je l'ai vu, je l'ai vu.
Non, il est cool, mais il a en plus, il a la politesse de durer qu'une heure, quoi. Et je
Oui,
trouve que ça marche bien sur une heure, ça marche très bien.
ah oui, moi, c'est ça, c'était très drôle. C'est ma femme, justement, qui m'a fait regarder et tout. On commence à regarder, ok, je dis ok. Après, il y a des trucs très sympas qui se passent. Et c'est con parce que je me suis dit, putain, les Américains vont le prendre, ils vont faire un truc bien avec. Alors qu'il y a plein de trucs très, très bien dedans. Pas tout. Des fois, c'est un peu long sur des trucs, machin. Mais l'idée, elle est très originale. Mais ouais, c'est.
Moi, je suis là. J'achète Le remake, je le vois avec plaisir.
Ah oui, mais moi je. Surtout, ce qui est intéressant, c'est quand. Bon, parlons un peu de ça, puisque je l'ai vu. Donc, il y a donc les comédiens sur scène, et bon, celui à la moustache, parce que je ne connais pas comment il s'appelle.
Pio Marmaille.
Marmaille, voilà. Pio Marmaille. Et donc, lui, ce qui est intéressant, bon, Yannick, il est très fort, mais lui, il a quatre. Je pense qu'il fait quatre types de jeux dans le même film. Il joue le comédien qui fait un peu un truc vaudeville, un peu naze. Il joue donc le. Donc, pas le. Ouais, le c'est un comédien qui joue un comédien, donc il a cette première
Alors,
couche.
on va rappeler ce que c'est, Yannick, quand
Oui.
même, comme ça vous comprenez tout le monde. C'est des gens qui jouent. C'est une pièce de théâtre, un vaudeville classique, où il y a Pio Marmaille, Blanche Gardin et Sébastien Chassagne sur scène, qui jouent vraiment des scènes assez, comment dire, sibyllines, de la vie de tous les jours.
Peu
Et il y a un mec qui intervient en plein spectacle, c'est Raphaël Quenard, qui dit: Putain, mais j'ai un problème, je me suis chié, je suis venu pour me détendre et je ne me détends pas. Et à partir de là, il va interrompre la pièce. Et voilà, il va bloquer la pièce, aux grandes dames des spectateurs, des acteurs, mais il va aller encore plus loin dans la suite. Et donc, c'est vrai que Pio Marmaille, lui, il a plusieurs niveaux de lecture. Il est à la fois le comédien d'un truc, puis un être humain qui se fait interrompre, puis après, il devient un peu un agresseur.
Ouais, c'est ça. Et après, il redevient un peu agressé. Et à la fin, il fait. Donc, il rejoue à nouveau, mais il rejoue un texte différent. Et là, ce mec, franchement, quel éventail!
Ouais.
J'étais. Waouh! Alors que Quenard, il est très bon. Il est très bon dans tout ce qu'il a fait. C'était très juste. Et tu voyais pas un mec qui joue. Donc, par contre, Blanche Gardin, elle était là, genre. Et après, c'était pas son film, mais peut-être étant la star, tu attends qu'elle fasse quelque chose de plus, quoi. Mais finalement, elle avait un rôle un peu
C'est pas une
secondaire.
grosse plus-value.
Non, non, j'ai
Là où
trouvé
Pio
que.
Marmaille et l'autre, vraiment, ils portent le film.
Ah
Raphaël Quenard avait son vocabulaire et son accent là, assez étrange.
oui. Ouais, c'était très, très.
D'ailleurs, si vous voulez rigoler, regardez le César de Raphaël Quenard. Là, il a reçu un César. Qu'est-ce qu'il était drôle en récupérant son prix là. Tu vois que c'est un personnage et j'ai juste peur d'un truc, que ce soit un nouveau Benoît Poulvorde, c'est-à-dire que ben, ça plafonne un peu vite, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que tu as vu, une fois que tu as vu son truc et qu'il a ce truc original, on n'en fasse plus rien. François Damiens, s'il avait ce truc-là aussi, quand ça arrivait, c'était une tornade. Après, bon, ça, c'est plus grand-chose.
Oui, mais là, François Damiens, je l'ai vu dans un film là, récemment, où c'est un tueur à gages qui a peur du sang. Ah, franchement, j'étais très agréablement surpris
Ouais, comme
parce
quoi, hein.
que les blagues n'étaient pas télégraphiées, n'étaient pas. Et c'était pas évident. Bon, il y a quelques trucs, tu vois, où ça va arriver, mais franchement, c'est pas que ça m'a réconcilié avec les comédies françaises, mais j'ai trouvé le truc bien joué, juste, et le personnage cohérent. C'est pas un truc. Parce que bon, quand tu fais un personnage, tu définis les principaux traits de caractère de ton personnage, et tu es discipliné avec ça. C'est pas genre, tu commences ton personnage et trois scènes après, tu te dis: Ah, ce serait drôle s'il faisait ça. Non. Tu as défini ton personnage. Ton personnage, soit il le ferait, soit il ne le ferait pas. Mais tu ne peux pas changer en plein milieu du film et dire: Ah, tiens, ce serait cool qu'il fasse ça. Parce qu'après, tu démembres ton personnage et il devient naze. Et on voit que tu fais en train de faire plaisir au scénariste, au réalisateur, ou
Pareil
autre.
pour les act-out. Exactement pareil pour les act-out. Il y a une logique dans vos personnages et les spectateurs s'accrochent vraiment à la logique des personnages, à la physicalité des personnages. Et si c'est un personnage qui est vieux, il va pas dunker, il va pas faire un. Voilà, il faut que même vos act-out, les personnages que vous créez vous sur scène, il faut qu'ils aient une certaine logique et que cette logique soit congruente, c'est-à-dire que tout soit aligné, votre physique, votre voix, votre attitude et votre façon de parler.
Oui. Parce que le public, c'est ça qui est très intéressant. Le public t'autorise à briser les règles du monde. Il t'autorise à créer un monde comique. Mais il a besoin de comprendre les règles de ce monde que tu viens de proposer. Et il a besoin que toi, tu respectes les règles que tu viens de poser. Si tu fais un sketch où les chiens parlent, il y a la blague, il y a un mec qui arrive chez lui, il voit le chien en dessous de la voiture. Il dit, bah, qu'est-ce que tu fais là? Et le chien qui fait, passe-moi les clés de 12. Il dit, quoi? Tu parles? Oui, oui, passe-moi la clé de 12. J'adore cette blague. Et du coup, c'est très drôle parce que le chien, il a besoin d'une clé de 12. Pourquoi tu l'emmerdes? Et voilà quoi. Mais si du coup, après, le chien sort d'en dessous de la voiture et se met à voler, tu dis, oula, déjà qu'il parle, il vole, qu'est-ce qu'il fait d'autre, quoi?
Crypto, le chien de Superman.
Oui, c'est ça, c'est un truc de fou. Donc, on peut briser les règles de la réalité, mais pas trop. Voilà, parce qu'après, ça devient fouillis, quoi.
Ah ben, moi, c'est ce que je... Je sais plus comment j'appelais ça, mais... En gros, c'est quand tu mettais trop de couches. Oui. Tu sais, ça devenait indigeste quand tu mets trop de couches à accepter pour le... Je sais plus, j'avais... Je sais plus comment j'avais appelé cette théorie, mais ça fait trop, en fait, c'est too much. C'est la frangipane, je crois que je me disais, ça devait être ça. Moi, ça devient un peu étouffant. Et je vais parler d'un mec qui a une logique absolue dans ses personnages. J'ai vu un vieux spectacle de Jeff Dunham.
Ah oui.
Tu connais Jeff Dunham?
Oui, oui, très bien.
Alors, Jeff Dunham, c'est un ventriloque américain. Ouais. Il a vraiment remis au goût du jour le ventriloquisme. Hein. La ventriloquie, j'ai inventé le mot. La ventriloquie. Alors, et c'est un truc qui est très 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 désuet, voire ringard, hein, la ventriloquie dans l'absolu. Ouais. Mais lui, il a réussi à réimposer ça de la même façon. Panacloc a réussi à le réintroduire en France et à en faire un grand succès public. Dunham aux États-Unis, il a réintroduit ça au point de devenir avoir été déclaré l'humoriste préféré des Américains.
Oui, oui, star absolue.
Donc je regarde un spectacle de 2007 qui s'appelle The Spark of Insanity. Et il a plusieurs personnages, et là, je me dis, déjà, il commence par du stand-up. Seul, il n'a pas besoin de marionnettes. 17 minutes de gros stand-up. Classique sur la famille et tout, mais...
Oui, le chien et la laisse qui court après le chien. Et le chien
exactement ça.
Génial. J'adore.
Super fort. Déjà, la première claque, je me dis, waouh, le mec, c'est une bête de stand-upper.
Ouais.
Et après, pouf, il envoie ses personnages. Et chaque personnage... Il est dans une logique absolue dont il ne sort pas. Il y a un personnage de super-héros, il vit dans un monde avec des super-héros. Il y a un personnage de terroriste, tout son vocabulaire c'est autour de ça. Et c'est super bien fait.
Avec ma fille, on faisait des répliques et tout de Ahmed, de Dead Terrorist. Ah oui, c'est génial.
Et Ahmed, il est intéressant parce qu'il est introduit sur scène en 2007. Et on peut croire qu'il a été fait en 2001, maintenant il est en 2007 et le buzz il arrive sur YouTube en 2007. Et c'est un truc qui a été visionné genre 120 millions de fois à travers le monde, ce sketch.
Ouais.
Et c'est osé, c'est tendu et le spectacle c'est un peu une masterclass de ce que c'est un grand spectacle de ventriloquisme.
Ah oui,
trop bien.
Donc oui, il y a toute la technique du ventriloquisme, mais après dans l'humour, comment le... Tu sais, la technique, je ne sais pas comment tu l'appelles dans le livre, quand tu montres que tu vises une cible et à la dernière seconde, tu fais un petit détour et tu tapes à côté.
Une misdirection?
Oui, je ne sais pas, c'est le biais d'attention. Il y en a qui l'appellent le biais d'attention. C'est Ahmed, c'est un terroriste, mais le mec, il en fait venir jouer son spectacle à Dubaï ou en Arabie Saoudite. Et après, donc il joue avec ça. Et il y a Walter, donc le vieux, qui est là quand il sort de la boîte et tout. Il voit tous les gens avec, tu sais, les vêtements traditionnels des Saoudiens et tout ça. Et genre, le vieux qui panique, il commence à lui faire pas Ahmed, non, garde-le dans la boîte. Mais il sort Ahmed. Et les gens sont morts de rire parce que
ouais.
Il n'est pas clivant dans le sens où, regarde, les musulmans sont tous des terroristes. C'est pas un truc comme ça. C'est un terroriste qui est con. Et voilà.
Qui veut faire peur, ouais, qui veut faire peur. En plus, il a trois phases d'Ahmed. Il veut faire peur.
C'est ça.
Puis après, il découvre sur scène qu'il est mort.
Oui, c'est ça.
Alors que lui, il croyait être vivant. Et la troisième phase, il se dit, ok, puisque je suis là, je vais faire des blagues. Je suis drôle. En fait, je suis drôle. Je suis pas un terroriste, je suis drôle.
C'est ça.
Et il a cette épiphanie, mais ses personnages, Jeff Dunham, sont d'une logique implacable. Et il arrive à faire des... C'est ce qui est fou, hein, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a des act-out visuels, genre d'attitude, mais avec une marionnette. C'est-à-dire que rien que le fait de bouger la tête, ouf, tout le monde
Ah
comprend ce
ouais.
que ça veut dire. Et ce spectacle Spark of Insanity, il n'est pas évident à trouver, mais si vous avez l'occasion de le voir, c'est un petit chef-d'œuvre. Hein.
Ah oui, c'est une masterclass, franchement. That was dark, was it not? Ah oui, c'est très, 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 très bien. Après, bon, mais c'est ça qui est fort, justement, c'est que tu ne vois plus le ventriloque.
Non.
Tu vois les deux personnages. Et c'est pas le mec, des fois, il y a des spectacles beaucoup plus anciens où il s'appuie un peu plus sur la technique vocale où il a quatre marionnettes d'un coup, il boit de l'eau pendant qu'il parle et il fait plein de trucs
Ah, il fait la
après.
démonstration un peu. Alors, ça aussi, c'est un truc bizarre qu'ils font. C'est vrai que souvent, ils aiment faire la démonstration. Ils gonflent un ballon, ils font des choses comme ça pour
Oui,
montrer que.
voilà. Mais là, tu le vois plus. Tu vois un personnage qui lui parle et tu limite tu t'en fous de qu'il bouge la bouche ou pas. Déjà, la voix, les voix sont différentes. Et waouh, c'est impressionnant.
Les voix différentes, il fait beaucoup de bruitage aussi quand il est en stand-up.
Ouais.
Ça reste du domaine de la voix, mais c'est autre chose que la ventriloquie, le bruitage.
Ouais. Non, mais c'est vraiment un niveau technique qui est extraordinaire. Et
Et tu le vois pas, il rend ça invisible, c'est ça qui
ah
est.
oui, c'est ça qui est beau. Et en plus, c'est ça qui fait la différence entre. Je sais pas, il y a quelque chose avec certains artistes qui font le même métier, genre un mentaliste, ou il y en a des mentalistes qui font des trucs au camping, et l'autre, c'est le mesmer, et qui remplit des zéniths.
Ouais.
Et putain, mais c'est le même métier, c'est les mêmes tours. C'est les mêmes astuces, c'est les mêmes ressorts. Les gars qui font du camping, ils savent comment l'autre, il fait tout, ils connaissent les techniques.
Exactement.
Mais il y a un truc, quoi.
Mais moi, je l'ai vécu ça. J'ai vraiment vécu ce truc-là de dire, une fois, on m'a engagé pour un spectacle d'hypnose. Non, l'hypnose de spectacle, c'est pas pareil qu'hypnose thérapeutique. L'hypnose de spectacle, c'est faire des effets comme mesmer. Les principes de l'hypnose sont assez simple. Sur une salle de 100 personnes, il y a 3, 4, 5 personnes qui sont très, très réceptives. Et le reste, moins. Mais celles qui sont très réceptives, c'est celles que tu veux sur scène. Tu les fais venir pour faire des choses sur scène. Donc, quand tu es mesmer, que tu as 1000 personnes dans ta salle, c'est pas 4, 5, c'est 50, 40, 50 personnes qui sont très réceptives. Donc, tu veux repérer ça. Après, le principe d'hypnose, c'est que c'est graduel. C'est-à-dire que tu. Avant de lui faire faire le chien, il faut bien que tu réussisses à l'endormir, qu'il réussisse à faire changer des petits jeux. Tu vois, il y a des paliers d'hypnose. Plus c'est réceptif, plus tu vas traverser ces paliers vite. Mais en gros, à un moment, c'est comme si je disais, Scott, tu vas faire un spectacle où le concept, c'est que tu peux faire faire n'importe quoi aux gens. C'est qu'une question de temps, mais tu vas arriver à faire n'importe quoi aux gens.
Ouais.
Maintenant, il faut meubler. Il faut juste te dire pourquoi tu le fais. Qu'est-ce que tu leur fais faire? Mais le comment, c'est toujours la même chose.
C'est ça.
Et là, je suis arrivé en me disant, bon, bah, écoutez, on va étudier ça, on va regarder ce qui se fait un peu partout. Et je tombe sur un mec qui s'appelle Derren Brown, en Angleterre, qui lui fait des spectacles un peu dark.
Oui, c'est un de mes idoles absolues.
Ah ben
J'adore.
tu vois, il fait des trucs un peu dark, c'est bien fait, c'est chiadé, l'histoire, elle est ouf. Il me dit, waouh, c'est vers ça qu'il faut faire. Et moi, il voulait absolument le contraire. Il fait, non, mais nous, il faut que ce soit positif. Et à la fin, tu te retrouves à faire la poule à des gens. Quoi. Les gens, bah, voilà, tu es une poule ou tu rencontres Johnny Hallyday ou tu es Johnny Hallyday. Bon, mais ça sert à rien en fait parce que tout le monde peut le faire.
Bah oui, c'est ça. Ça. Darren Brown, pareil, si vous pouvez, il y a quelques trucs. Bon, il y a un truc spectaculaire, mais mon préféré, c'est The Séance. Ça s'appelle The Séance, où il fait venir des jeunes dans une sorte d'un hôpital abandonné ou une connerie comme ça. Et il leur fait toute une histoire comme quoi il y avait des gens, des patients de psychiatrique, etc. Machin. Il y a une meuf qui est morte dedans et tout. Et donc, il plante beaucoup de suggestions. Et après, il filme les réactions des gens. Les gens, il va mettre un dans une pièce dans le noir et il va lui demander s'il ressent quelque chose. Mais bien sûr, le cerveau, il a horreur du vide. Tu le mets dans le silence, dans le noir, il commence à écouter des trucs, commence à ressentir des choses. Mais ce qui est fascinant, c'est les plans, quand il filme les gens, l'expression d'ahurissement, de peur, de panique, de trucs, un comédien ne pourrait pas faire ça.
Ah ouais.
C'est comme quand il endort un mec dans une cabine téléphonique à Londres et l'autre il se réveille au souk à Marrakech. tu le vois sortir du photomaton. Le mec, il est à Marrakech, il est là. Genre, il a tête, genre, il est en train de bugger complet. Et ça, aucun comédien peut le faire. C'est un truc vraiment animal. Quand tu le vois, quand tu vois la tête de cette personne, tu te dis, et voilà, il y a un bug dans son cerveau, vraiment. C'est, je ne sais pas expliquer trop, mais c'est merveilleux.
Bah, Darren Brown, donc The Séance, c'est vieux, ça date de 2004, vous aurez du mal à le trouver. Hein.
Ouais.
Mais il y a des trucs sur Netflix de Darren Brown, je crois qu'il y a The Push sur Netflix, je vais vérifier. Netflix, tac, tac, tac. Parce, alors ça, c'est le concept, c'était, il voulait prouver, ça s'appelle The Push ou Sacrifice, il voulait prouver en gros que, est-ce que dans une situation donnée, tu pousserais quelqu'un dans le vide. Est-ce qu'un lambda pourrait pousser quelqu'un dans le vide pour s'en sortir et ça y est, sur Netflix, et c'est assez...
Je n'ai pas vu ça, je vais le voir.
C'est très, très drôle. C'est une expérience de manipulation psychologique qui vise à pousser une personne à prendre une balle pour une autre personne, un truc comme ça. C'est très, très drôle.
C'est un peu comme le film The Game avec Michael Douglas. C'est un peu... Ah ouais, c'est... Ouais, il y en a un truc que j'ai beaucoup aimé de Darren Brown, c'est... Il donne rendez-vous à une nana dans une terrasse et lui dit, regarde, tu vois ce qui se passe, là il y a un mec en bino, il va se casser la gueule, le serveur va faire ci, va faire ça, il y a une voiture qui va écraser, machin. Et après, il lui dit, voilà. Et donc, il dit, dès qu'il dit que ça va se passer, les événements se déclenchent, exactement ce qu'il dit se déclenche. Et après, il dit à la meuf, bon, pendant cette semaine, il y aura plein de choses, je vais te donner plein de signaux pour ta vie. Et tu, tous les jours, tu t'enregistres et tu me dis, tu fais un truc de ce que tu as vu, de ce que ça t'as senti. Et la meuf, oui, oui, oui. Et donc, tous les soirs, elle enregistre, mais des trucs de fou, alors qu'il n'y a rien du tout. Le mec, il fait cette mise en scène pour lui dire qu'il a tout contrôlé. Et après, c'est juste la vie de la fille qui continue. Et elle voit des signaux, des messages, des trucs.
C'est terrible, hein.
Et wow. Non, mais c'est vraiment à voir. C'est un showman vraiment... très, très, très intéressant. Ouais.
Et encore une fois, avec le même média que les autres, c'est-à-dire quoi ils sont. C'est juste... C'est à haut niveau. Hein. C'est de l'hypnose, c'est du mentalisme, c'est choses comme ça à très haut niveau. C'est juste qu'il a trouvé exactement les angles qu'il fallait, la façon de traiter les sujets. Sa persona est forte et la proposition, si je te dis, bah, il va essayer de prouver que quelqu'un peut sacrifier et prendre une balle, c'est accrocheur. Tu vois, il a réfléchi à d'autres choses que le mec qui fait les campings.
Ah oui, c'est ça. Quand il convertit une athée en 15 minutes. Ça, c'est un truc de fou. Il lui parle pendant 15 minutes. Et donc, il fait tout un speech et tout. Bref, il sait un peu de l'hypnose, de la suggestion, etc. Et la fille, elle se lève. Et quand sa tête touche la zone qu'il avait un peu suggérée avec ses mains, etc., boum, elle est en larmes. Et elle comprend que Dieu existe. Et que machin, et vraiment lavé en larmes, vraiment un truc, une émotion, c'est impossible. Tu dis waouh! Et bon, mais bon, après, c'est, il explique. Voilà. Mais c'est ça qui est bien, qu'il est un peu contre les gens qui fraudent, les hacks, les machins. Et il dénonce un peu les gens qui se font avoir. Quoi.
Allez, pour terminer, je vais répondre à quelques questions que j'ai reçues sur Instagram par mail. Sur Stand Up France, parce que vous êtes deux, trois avec la même config et j'aimerais vous aider, ou en tout cas vous diriger. J'ai des mentalistes, des magiciens, des gens qui font ce type d'activité, qui se retrouvent à un problème, c'est qu'ils n'ont pas de scène ouverte et ils ne savent pas trop comment faire. Et parce qu'ils se disent, y a plein de scènes ouvertes en stand-up, ils veulent aller sur ces scènes-là, mais on ne les accepte pas. Donc, il se demande, est-ce qu'il faut que je change mon acte et que ce soit un acte drôle avec un peu de mentalisme? Est-ce que... Vous voyez, vraiment, je pense que votre place, elle n'est pas en comedy club. Non, mais elle n'est pas en comedy club. Le cabaret, ça existe encore, c'est encore puissant. Ne croyez pas que ça n'existe plus, le cabaret. Il y a des soirées, il peut y avoir des chanteurs et mentalistes et tout, ça sera très bien. Mais je ne vois pas ce que vous allez faire au milieu de 5 stand-uppers. Maintenant, si vous voulez vraiment développer votre acte, dans les comedy clubs, effectivement, où il va falloir être percutant, rapide, drôle, mais ça va limite dénaturer presque votre acte. C'est-à-dire que vous allez devoir développer un style qui répond à une demande, mais c'est peut-être pas c'est une demande immédiate, mais c'est peut-être pas la demande que vous allez avoir à terme. Donc il va falloir vous poser les bonnes questions. Le cabaret existe. Il y a vraiment de l'argent dans le milieu de la magie, truc. Même
Ah
les.
oui. J'ai un pote magicien que je produis des fois. On est là, oui, les magiciens, c'est ringard, je fais spectacle pour enfants, etc. Donc les stand-uppers qui prennent les magiciens un peu d'euros, et quand tu vois que le mec il fait un spectacle pour enfants en après-midi, il facture 800 euros, et toi, tu es là, ouais, je fais du stand-up, et tout, je pars avec 20 balles.
Ah, moi je connais même des imitateurs, les imitateurs. Hein. Ah là là, oui, d'accord, mais le mec, il a un gros salaire de cadre supérieur. Il tourne dans toute la France, il n'a jamais manqué d'un euro. Et il est artiste, il est sur scène, il fait ses blagues, il fait ses trucs. C'est pas le format. C'est comme un chanteur de variété au milieu d'un concert de rap. C'est la même différence. Tu peux pas lui enlever qu'il chante bien, tu peux pas lui enlever que ses chansons elles sont entraînantes et tout, mais c'est pas le bon endroit.
Après, je pense que le but, parce que bon, tu peux venir, il y a des scènes ouvertes, il faut que les gens te voient et qu'ils aient envie de te voir en spectacle, qu'ils aient envie de te voir ailleurs. Donc, si tu es magicien, et c'est ce que je dis, je parlais avec David justement, c'est tu es magicien, ok, mais lui, il est très drôle. Donc, peut-être si tu es un stand-upper qui fait des petits tours de magie, des petits trucs, des petits effets qui sont sympas, et tu dis, bon, si vous voulez, j'ai un spectacle de magie, venez me voir. Mais tu respectes les codes de l'endroit où tu es et tu adaptes. Et du coup, tu es un humoriste qui fait des petits tours plutôt que d'un magicien qui fait des blagues. Donc, et développer cette avenue, parce que les gens veulent te parler, bah voilà, fais-le. Voilà. Et
François
comme.
Martinez à Paris, il fait ça, hein, il est sur les plateaux, il dénote pas, mais son acte, il y a une partie, c'est de la magie, l'autre, c'est il a des super blagues, c'est très rythmé, et il y a la magie. Et c'est juste comme un bonus dans son humour, quoi, la magie.
Oui, c'est comme si tu vois un truc, un spectacle, une scène ouverte de magicien, et tu vas faire des blagues.
En cours de
C'est
magie.
drôle. Oui, c'est ça, ouais, machin. Ah, et tout. Et des gens, mais alors, sors un bouquet de fleurs de ton cul, soyez original. Fais quelque chose.
Alors, et moi, pour te dire, j'ai vu l'évolution ces 12 dernières années. Au début, en particulier vers Montpellier et tout, il y avait les scènes étaient très ouvertes, c'est-à-dire que sur une même scène, il y avait sketch, stand-up, petit truc d'impro, il y avait des conteurs, il y avait des magiciens. La scène ouverte était vraiment ouverte. Et effectivement, ces dernières années, ça s'est totalement spécialisé sur le stand-up, tourné vers le stand-up. Moi, je vois très peu de scènes ouvertes pluridisciplinaires, mais je crois qu'elles existent encore.
Oui, on en fait ici, on a un produit à Toulouse, un peu, mais c'est très très cool, c'est une ambiance très cool parce que c'est souvent des gens qui n'ont pas l'expérience de scène, et quand ils viennent, ils ramènent leur famille, leurs amis qui viennent les soutenir. Ça
Voilà.
fait une super atmosphère.
Génial.
Mais un autre truc aussi, quand tu es artiste, n'attends pas qu'on vienne te taper à la porte pour te
Merci.
proposer un truc.
Tout à fait.
Organise-toi ta scène ouverte et tu dis, ok, c'est moi le magicien, je fais ça. Et après, si tu veux venir faire 5 minutes de stand-up, viens. Mais c'est mon truc.
Vous
Et
trouverez
fais-le.
toujours des gens dans votre région qui veulent faire un truc, chanter, faire une scène ouverte, ça attirera toujours du monde. Ne vous inquiétez pas. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, n'attendez pas qu'on vienne vous chercher. C'est le meilleur conseil que ce qu'on vous a donné là. Faites vos trucs dans votre coin, même si vous avez été un petit village, tout le monde sera content de participer. Il y aura toujours un mec qui sait jongler, qui sait faire une petite attraction en plus.
C'est ça.
Et vous, vous améliorez. Et le fait de faire ça, fil en aiguille, vous créerez un petit réseau de gens qui veulent faire ça.
Oui. C'est, faut pas attendre. Parce que quand tu attends, souvent, tu es aigri parce que tu vois que les gens font jouer toujours les mêmes. C'est leurs potes. Toi, tu n'es pas dedans. Toi, tu es trop vieux. Toi, tu es trop gros. Tu es trop ci, tu es trop ça. Ils te font pas jouer. Ils te répondent même pas quand tu envoies des trucs.
C'est trop portugais.
Tu es
C'est
trop
trop portugais.
portugais. Trop portugais. Non, toi, tu es trop portugais, toi. Et tu viens pas. Non, j'ai un pote pareil, mais il croit que c'est parce que il a un handicap ou parce qu'il est plus âgé que il a 40 ans quoi, ou 40 voilà et quelques, et il se dit putain, voilà, c'est parce que je suis vieux qu'il veut pas s'afficher avec moi. Et c'est dur ça. Mais quand tu fais toi ton plateau, ils viennent te taper à la porte, tes petits jeunes de 20 ans. Donc et là c'est
Non,
toi.
oui, c'est pour ça, il faut un peu de le. Non, mais il faut comprendre le jeu, voilà, il faut un peu de levier,
Oui.
et prenez-vous en main, organisez, et si ça ne vous plaît pas ce qu'on vous sert, ben, créez vous-même le plat
Voilà.
et tout ira bien. Scott, on va arriver au terme de ce podcast.
Et c'était merveilleux.
Si vous voulez retrouver Scott sur Instagram, c'est @scottfins, vous pouvez lui demander son expertise, des conseils. Maintenant, il peut même vous produire. Il peut enregistrer votre livre audio, il peut tout faire.
tout faire.
Le merveilleux Scott Fins. Moi, vous me retrouvez, c'est @briac. Et Stand Up France, c'est tous les jeudis, le podcast. Ça sort à 7h du matin parce que je me dis, tiens, quelqu'un qui va au boulot, peut-être lui écouter ça direct.
C'est ça, c'est bien ça.
Et écoutez, on en est à l'épisode 100 millième. Bientôt, il va y avoir le retour des invités. Je cherche une forme sympa pour faire revenir des invités, mais j'ai toute une liste d'invités trop cool. Et alors, je ne sais pas si on va les faire, si est-ce qu'on gardera le rythme hebdomadaire ou si on sortira un épisode, toi et moi, plus un épisode invité par semaine. On va en parler en off.
Allez, parlons-en en off. Bisous tout le monde.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.